20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Au cœur de la République de Bashkiri, la grotte de Kapova, dénommée aussi Chulgantash, est un exceptionnel témoin de l'art pariétal préhistorique. Une cavité unique dans cet univers dominé par les steppes. Ces peintures du Paléolithique supérieur dévoilent surtout que les chasseurs-collecteurs de Russie partageaient une communauté de pensée avec les artistes de Dordogne, du Quercy ou d'Espagne. De l'Atlantique à l'Oural, oui, c'est l'Europe. Depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, c'est l'Europe, c'est toute l'Europe. La grotte de Kapova laisse ainsi penser que la phrase de De Gaulle était déjà valable il y a plus de 14 000 ans. L'occasion était trop belle. Une délégation d'archéologues bashkirs était juste de passage à Paris pour faire le point sur les recherches de cette cavité de Kapova. C'est donc au cœur du 16e arrondissement, dans le centre de la Fédération de Russie pour la science et la culture, que j'ai retrouvé Danir Gainoulin, directeur du centre de recherche scientifique pour le patrimoine de la Russie de Bashkiri, et Nikolai Grigorev, archéologue expert. Enfin, Jean-Michel Jeuneste, conservateur général du patrimoine, qui œuvra notamment à Lascaux et Chauvet. Nous voici au sud de l'Oural, à 200 km au sud-est d'Oufa, dans la république de Bashkiri, au pied d'une grotte gigantesque. Comment est le paysage ?
Nous sommes dans les montagnes, un paysage magnifique. Ce sont des montagnes boisées. Il y a une rivière qui coule, qui s'appelle Agidel, une rivière très pure. Et au bord de cette rivière se trouve justement la grotte Chulgantash.
La grotte est visiblement gigantesque, avec un très grand porche. Elle est bien visible dans le paysage.
Le porche est gigantesque, il est à la hauteur de plus de 23 mètres, et quand un homme s'approche du porche, le paysage est dominé par ce porche. Il atteint la hauteur, presque la moitié de la hauteur de la montagne, de la colline où se trouve cette grotte.
Alors, la grotte de Kapova, elle se trouverait aujourd'hui dans une sorte de réserve naturelle ?
Oui, il est vrai qu'une partie de la grotte se trouve sur le territoire d'une réserve fédérale, une réserve naturelle, mais aussi d'autres parties de la grotte se trouvent sur des réserves de portée régionale, dont l'une est consacrée à la sauvegarde de l'abeille locale, et une autre sur une réserve historique et culturelle.
Cette grotte de Kapova ou de Chulgantash, est-ce le gisement le plus ancien découvert au sein de cette république de la Fédération de Russie ?
En ce qui concerne l'art rupestre, oui, c'est vrai que ce monument est le seul de cette importance sur les territoires de la Russie entière. Et bien sûr, sur les territoires de notre République, c'est un exemple de l'art rupestre le plus ancien.
Vous êtes rentré dans la grotte ?
Non.
C'est comment ? C'est une grotte très profonde ? On y rentre comment ? On y circule comment dans cette grotte ?
Общая протяженность нашей пещеры 3 км 323 метра. Это протяженность исследованных ходов. Чтобы в нее проникнуть, нужно пройти в грот портал, о котором мы говорили. Очень высокая арка.
Oui, la longueur des circuits explorés de la grotte est de 3323 mètres, mais c'est une partie étudiée. La grotte est constituée de trois étages, dont un étage souterrain, un autre étage où le porche se trouve, il y a un autre étage supérieur qui se trouve à la hauteur de 14 mètres et on y accède par un puits où il y a un escalier en colimaçon.
Est-ce que l'homme préhistorique a été jusqu'au fond de la grotte ?
Древний человек мы можем говорить, что проходил расстояние около 500 метров.
Nous trouvons les traces de la présence humaine jusqu'à la distance de 500 mètres à l'intérieur de la grotte, surtout au deuxième étage. En ce qui concerne les autres parties, maintenant on pense qu'elles sont restées intactes jusqu'aux années 60 du XXe siècle.
Il faut dire qu'il y a des sortes de siphons, qu'il y a des lacs intérieurs qui bouchent donc l'accès à cette grotte.
Вот как раз после входа, прохода через ход Рюмина, так называемый, это дальние залы пещеры.
Justement, il y a une partie de la grotte qui est très difficilement accessible. On l'appelle la nouvelle région. Seulement, les spéléologues équipés peuvent atteindre cette partie-là. Et même, il y a eu un accident mortel dans les années 60 quand un spéléologue était mort en essayant d'y pénétrer.
En tout cas, la grotte est connue depuis très très longtemps, puisque j'ai lu qu'elle avait été déjà visitée en 1760, par exemple.
Il est vrai que la population locale connaît cette grotte depuis des temps immémorables, mais c'est vrai que c'est en 1760 qu'un voyageur russe a découvert la grotte et il a décrit la grotte dans ses écrits et donc il a fait découvrir cette grotte au grand public. Et depuis 200 ans après cette découverte, cette grotte a été l'objet des recherches. Il a été considéré comme un objet géologique très intéressant, mais c'est seulement en 1969 que les peintures rupestres ont été découvertes.
Qui a découvert ces peintures pour la première fois? Je crois que c'est en 1959.
En
1958, une réserve naturelle a été créée dans la région de la grotte et c'est un des experts de cette réserve, un biologue qui s'appelait Alexandre Roumin, qui cherchait des peintures rupestres parce qu'il avait une hypothèse qu'on doit y avoir des peintures. En 1959, il a découvert des peintures pariétales. Il a fait un exposé à l'Académie des sciences à Moscou et un archéologue russe connu de l'époque, M. Otto Bader, est venu et il est vrai, il a confirmé l'existence de ces peintures et leurs âges paléolithiques.
C'est un cas unique en Russie aujourd'hui?
Oui, c'est un cas unique parce qu'il existe aussi d'autres exemples d'art pariétal, d'art paléolithique, mais ils sont, la datation est plus récente. Ils sont moins âgés que les peintures de la grotte Chulgantash. Ou bien ils ne sont pas datés du tout.
Est-ce qu'il y a eu des fouilles dans la grotte pour savoir qui étaient ces hommes préhistoriques et quelles étaient leurs relations entre, bien sûr, les vestiges archéologiques et les peintures?
Déjà dans les années 60 du XXe siècle, Otto Bader a effectué des fouilles archéologiques et dans les années 80, après sa mort, c'est un autre archéologue, M. Chelinski, qui a mené des travaux archéologiques et justement dans la salle dite salle des signes, on a retrouvé une couche d'occupation du haut paléolithe. D'après les recherches effectuées, des analyses, on pense que c'est une couche contemporaine des peintures et même dans cette couche, on a découvert un morceau de pierre où il y a une petite figure, une image. Donc, c'est contemporain des peintures.
Dans ce qu'on appelle la culture matérielle, donc, on va dire les objets qui ont été découverts, j'ai vu qu'il y avait bien sûr des silex. Hein. J'ai vu aussi qu'il y avait des coquillages. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des restes humains?
Oui, pendant des fouilles, on a découvert au total 7 crânes humains. Les archéologues disent que ce sont des crânes féminins et que des femmes qui avaient l'âge de 12 à 20 ans. En ce qui concerne la datation, elle est de l'époque de bronze.
Aujourd'hui, nous avons combien de peintures en tout et pour tout appartenant donc à ce paléolithique supérieur?
Actuellement, il est reconnu qu'il y a 206 images qui sont sous protection, mais malheureusement, la plupart de ces images sont des reliquats, des relictes, parce que le climat dans la grotte est peu propice à la conservation. La grotte est très humide. 50 de ces images sont assez distinctes, donc même un non spécialiste peut distinguer ce qu'il y a, une figure zoomorphe ou un signe géométrique.
Ce que vous avez, c'est du cheval, du bison, du rhinocéros, du mammouth?
Il y a des images de mammouths, de bisons, des chevaux, des rhinocéros, des nœuds, mais la dernière découverte qui a été faite en 2017, c'est une découverte unique parce qu'il s'agit d'une image d'un chameau de Bactriane.
Ça, c'est une exception tout à fait extraordinaire. Ce chameau de Bactriane, donc bien sûr avec deux bosses, hein, il est originaire donc de votre république?
C'est difficile de le dire parce que près de cette image, nous n'avons pas découvert de la carte d'identité de ce chameau. Mais ce qui est important, c'est que nous avons l'image et maintenant, c'est la tâche des experts de nous dire d'où vient ce chameau.
Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire de cette grotte absolument capitale de la Fédération de Russie, de l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, vous avez tout à fait raison. Déjà en 2012, cet objet a été inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut dire que c'est la liste d'attente. Et maintenant, nous menons des travaux très actifs pour que cet objet soit inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour cela, nous menons des travaux de conservation, des recherches scientifiques, de valorisation, de datation et tout cela justement pour atteindre cet objectif.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jean-Michel Geneste, cette grotte de Kapova est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est la grotte la plus orientale de notre Eurasie.
C'est vraiment la plus orientale parce qu'elle est quand même à 6500 km et que entre le groupe de grottes franco-cantabriques portugaises, il n'y a quand même pas grand-chose dans l'Europe centrale, en Allemagne, etc. Donc elle est vraiment isolée. La question qui se pose, c'est est-elle vraiment isolée, est-elle unique? Mais enfin, a priori, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une, deux ou trois, pas plus.
En tout cas, vous parlez d'Allemagne. En Allemagne, il y a quand même des vestiges. Il y en a aussi en Tchécoslovaquie ou autre, en Ukraine. Mais ce ne sont jamais des grottes. Ce sont du mobilier, ce sont des représentations, par exemple, sur des petits objets.
L'art préhistorique est surtout connu dans cette ère, beaucoup par l'art mobilier qui est bien représenté en Europe centrale. Je faisais quand même allusion à quelques traces d'art rupestre qui sont réellement en Allemagne, en Roumanie, etc., mais qui sont quelques points seulement sur la carte. Donc cet art est vraiment localisé dans les grottes de l'Atlantique européen, et effectivement après on a ce grand manque. Et donc ce genre-là tient un rôle extraordinaire au niveau du contenu. C'est lui qui nous renseigne effectivement sur l'art paléolithique eurasiatique.
C'est-à-dire que l'Europe va jusqu'à l'Oural, et dans l'Oural, on a quelques grottes, et immédiatement, on se remet à faire de l'art?
Effectivement cela. Mais c'est-à-dire qu'il y a un fond commun de culture, de technologie que nous connaissons, avec les grandes extensions des courants culturels, l'art mobilier, et là, au niveau de l'art pariétal, il y a une disjonction assez nette. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on va regarder les contenus de cet art rupestre orientale et occidentale.
Bison, rhinocéros, chevaux, mammouths, nous sommes sur un cortège très très connu.
Alors, cet art de Shulgantash que nous avons connu, publié sous le nom de Kapova, nous montre effectivement un bestiaire qui est identique à celui de l'Europe occidentale, avec cheval, bison, rhinocéros laineux et mammouth, mais quand même un chameau de Bactriane qui est apparu récemment et qui nous montre donc que sur un fond commun, puisque le fond du bestiaire c'est le même qu'en Europe atlantique, mais comme en Europe atlantique, quand on va au bord de la Méditerranée ou au Portugal, nous allons retrouver des mammifères marins, des baleines, des phoques et des pingouins, ici, on a le chameau de Bactriane. Donc on a un fond commun avec de chaque côté des spécificités bioculturelles. Et c'est cela que nous apporte la grotte de Kapova. Sans elle, on pourrait avoir une vision de l'art qui serait nettement atlantico-centrée. Et là, elle nous amène aux marges orientales, elle nous amène vers l'Asie.
Alors justement, en Europe, est-ce que l'on a des spécificités régionales de la sorte ?
Ben, on a ces spécificités régionales qu'on va trouver au niveau des signes, qui vont être complètement différents, les signes abstraits, que de ceux qu'on a ici. À Kapova, on a surtout des signes géométriques d'une forme particulière, des sortes de trapèzes avec des lignes, etc. Et d'autres qui nous échappent. Et puis, on a une spécificité avec les animaux comme le chameau de ce côté. Et de l'autre côté, on va trouver des spécificités avec des cervidés en Espagne, mais aussi les pingouins de la grotte Chauvet. Voilà, c'est ça les spécificités. Elles sont discrètes. Elles sont très peu, mais c'est elles qui font sens.
Sur certaines peintures, il y aurait des couches superposées, donc plusieurs actions par la même occasion, peut-être même plusieurs époques. C'est étonnant, Préhistoire, cette faculté de revenir sur une peinture, parfois pour en repeindre une autre.
Bien sûr, mais ce qui est particulier, c'est de réussir à le documenter en archéologie, parce que c'est pas toujours évident. Des chercheurs comme Michel Lorblanchet l'ont fait à travers des datations. Aujourd'hui, on a des micro-lames minces qui nous permettent de voir les superpositions. Et Alexander Pakounov nous a essayé d'avancer sur ce sujet-là. Il suspecte qu'il y a des superpositions. Lui-même n'a pas pu objectivement nous le documenter.
C'est-à-dire que l'homme préhistorique arrive, il voit des peintures, il se remet à dessiner dessus comme un peu s'il n'y avait rien.
C'est certainement un peu plus compliqué que ça. Dans les parois des grottes ornées, et là on a maintenant beaucoup de grottes étudiées en détail, on voit que les œuvres ont été composées progressivement, c'est-à-dire qu'un panneau se compose, pas toujours avec une conception d'ensemble, mais que progressivement des œuvres s'installent avec différentes couleurs et d'autres. Et selon chaque grotte, il y a un processus d'achèvement du panneau. C'est-à-dire qu'un panneau n'est pas toujours donné tel qu'il est, mais il va être complété au fur et à mesure, quelquefois sur le long terme. On peut y rajouter des signes. Et l'étude des superpositions dans les panneaux des grottes ornées et dans l'art paléolithique est un élément très important, non pas pour étudier le processus, mais justement son évolution dans le temps et l'évolution des intentions, les choix des bestiaires et les choix des signes, etc. Ça, c'est un élément extrêmement important. Quand en plus on peut le dater, c'est-à-dire le serrer chronologiquement de façon objective avec des datations, c'est vraiment l'idéal.
Revenons sur ce beau chameau de Bactriane donc, qui a été découvert. D'ailleurs, il a été découvert dans des conditions assez particulières.
Oui, comme à la grotte d'Arcy-sur-Cure où de la calcite a dû être enlevée pour permettre de mieux voir des œuvres. Ici, très tôt, un restaurateur expérimenté, en l'occurrence Eudald Guillamet, a été sollicité et il a pu observer qu'il y avait effectivement des dépôts de calcite opaque sur certaines œuvres, mais heureusement aussi des dépôts de calcite translucide, donc enlever avec une certaine sécurité la calcite opaque et s'arrêter sur la calcite transparente, mais protectrice, parce qu'il s'agit bien entendu pas de faire prendre des risques à ses œuvres et de mettre de pigment à nu. Et là, franchement, ces dernières années, le dégagement de chevaux essentiellement et de signes, de très 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 beaux signes dont on voit aujourd'hui la complexité et la précision de réalisation, mais de ce chameau de Bactriane qui a mis très longtemps à être dégagé est absolument nouvelle. Il faut savoir qu'ici, l'épaisseur de calcite enlevée atteint 4,5 cm. C'est un processus extrêmement long avec des moyens mécaniques, bien sûr, pas chimiques.
C'est ce qui a été aussi découvert dans la soi-disant peinture néandertalienne qui a fait tant de bruit. Elle avait été, elle aussi, conservée par la calcite ?
Oui, mais bien sûr, heureusement qu'il y a ces films de calcite, parce que cette calcite, et c'est aussi le cas à Kapova, bien entendu, a une capacité de datation par l'uranium-thorium dans un certain nombre de conditions très raisonnables, et c'est elle qui donne effectivement une date. En datant la calcite qui est au-dessus des œuvres, on sait que les œuvres peintes qui sont au-dessous sont plus anciennes que la date obtenue. Et là, on voit bien la grande marge qu'il y a entre les endroits où ont été dégagées les œuvres calcitées et les dates uranium-thorium donnent de très grandes marges, de 14 à 20 000 dans certains cas, 21 à 30 et presque jusqu'à 40. Date que par ailleurs, sur la calcite récente apposée sur des œuvres du paléolithique récent, on va retrouver tout au long de la façade atlantique.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que la calcite donc a protégé les peintures eh bien, de la dégradation liée par exemple à l'eau. Aujourd'hui, on ne trouve dans certaines conditions que des peintures sous la calcite alors que tout le reste a été lessivé. C'est dur peut-être pour comprendre l'évolution et la totalité d'une grotte.
Les spécialistes de la rupestre, vraiment ceux dont c'est le cœur de métier d'étudier l'art pariétal, s'entourent de physiciens, de taphonomistes, qui étudie l'évolution de la paroi, les conditions d'évolution des œuvres dans le temps, ce qui se passe au niveau de la paroi est central pour interpréter les œuvres, de plus en plus.
Dans cette grotte de Capova, on a de très très beaux signes. Rien à voir avec nos signes d'Europe occidentale, les fameux tectiformes qui ont été si souvent décrits.
Ils n'ont rien à voir sur le plan formel, mais malgré tout, ils appartiennent au même ensemble, en ce sens qu'ils sont faits avec des éléments de géométrisation, des formes relativement simples. Dans ces signes, il y a toujours une partie des signes qui évoquent du végétal, des graminées, des graines, etc. Mais là, ils ont des formes relativement complexes, avec le compartimentage, et ils ne sont pas sans évoquer des signes quadrangulaires. Je penserai spontanément à ceux que l'on connaît à Lascaux, par exemple, et dans d'autres régions. Il y a certainement des familiarités, des comparaisons à évoquer. Néanmoins, ils sont assez spécifiques au niveau des morphologies sélectionnées. Les trapèzes, les triangles avec des cloisonnements intérieurs, eux, ne sont pas connus dans l'autre partie de l'Europe. Et ils sont bien spécifiques donc, de ce patrimoine du paléolithique récent oriental.
En tout cas, quelle est la signification, du moins pour les archéologues, de tous ces signes, voire de ce qu'on appelle des ponctuations? Et je crois qu'il y en a énormément dans la grotte de Capova.
Il y en a énormément, mais c'est un des domaines qui est le plus récemment réactualisé avec les études récentes. C'est que, à côté de l'expression figurative, qui malgré tout est une espèce d'abstraction, parce que ce bestiaire n'est pas contextualisé, il y a cet univers de signes qui est en inflation, dont la description aujourd'hui est beaucoup plus détaillée. Puisque, à côté des signes formalisés, il faut rajouter une multitude d'actions sur la paroi, d'attouchements, de ponctuations extrêmement discrètes qui montrent et qui indiquent que tous les groupes paléolithiques ayant fréquenté la paroi et ayant eu des actions ont eu un comportement graphique formalisé et en même temps une multitude de comportements à l'égard de la paroi qui est une manière d'être auprès de la paroi, une quasi-technique des corps contre la paroi et contre les œuvres.
Ce qui est tout à fait aussi étonnant dans cette grotte de Capova, c'est que l'homme s'est représenté, ou du moins il s'est représenté sous des traits un petit peu particuliers, ce que les archéologues appellent les anthropomorphes.
Alors les anthropomorphes, c'est un terme qui est extrêmement flou et global. De ce que l'on en sait, quand on les étudie quand même un peu en détail en Europe occidentale, on voit bien de quoi il s'agit. Il s'agit de figurations humaines qui sont complètes ou incomplètes, ou souvent complétées et hybrides, associant une part animale et une part humaine. Et là, on rentre dans un univers mythologique commun et retransmis et bien diffusé sur ce grand espace, où à cette époque, il y a vraisemblablement un grand nombre de règles psychosocio-culturelles qui font que l'humain ne se dépeint pas en tant qu'humain nu spontanément, mais paré de l'animal ou paré d'un certain nombre de règles utilisant l'animal. Et c'est le cas aussi à Capova.
Le plus beau, c'est bien sûr ce que l'on appelle le sorcier de la grotte des Trois Frères en Ariège.
Oui, parce que celui-là, c'est entre autres un humain, où il est bien identifiable, mais effectivement, là pour le coup, il est bien paré de l'animal, il semble même habillé de l'animal, il est dans une situation, mais il est vraiment pas le seul. On a un certain nombre de ces figurations particulières mixant l'humain et l'animal, et de manière étonnante, par contre, depuis le début du paléolithique récent jusqu'à sa fin, puisque les trois frères, on est dans un contexte magdalénien, mais les humains de Chauvet ou du Jurassouabe, ils sont quand même aux alentours de 40 ou avant 40 000 ans.
Donc l'origine, l'arrivée de l'homme moderne, l'époque régnacienne vers 35-40 000 ans. On a bien sûr la grotte Chauvet, vous en parliez. Là, c'est encore peut-être plus étonnant. On a une sorte de mammouth qui serait en homme et non plus un homme qui serait en mammouth.
À la grotte Chauvet, on a un corps humain, en l'occurrence un corps féminin très clairement féminin, enchâssé avec d'autres animaux, et on voit bien qu'il y a une nette continuité entre les animaux qui sont immédiatement présents, qui sont le bison et lion, et c'est pour ça que je parlais un peu du Jurassouabe où on a aussi un homme lion. Bref, cette manière de représenter l'humain me fait penser, mais alors c'est peut-être strictement personnel, que l'homme est encore extrêmement animal. Il a une réserve à se représenter strictement humain. Peut-être n'a-t-il pas conscience encore de ce qu'aujourd'hui on appelle l'humanité et la modernité.
Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, Jean-Michel Jeunesse. Je ne suis pas d'accord au travers d'un seul exemple, qui pour moi est un cas tout à fait unique. C'est la grotte de la Marche. La grotte de la Marche, donc, dans le Poitou, où l'homme s'est représenté d'une manière très particulière.
Oui. Mais à la grotte de la Marche, on est dans de la production qui est quasi domestique et on n'est pas sur la figuration certainement collective, très ritualisée de la paroi. Et là, dans une manipulation quasi individuelle, on saisit les croquis et on saisit effectivement cet environnement et on est peut-être dans un autre type de fonctionnement. C'est pour ça que là, on a les crobards et les ardoises.
On s'éloigne bien sûr de l'Eurasie et de l'Oural. Cette grotte de Kapova, on peut l'apparenter à quelle entité culturelle s'il fallait le faire? On sait grosso modo qu'on est vers les années 16 000. Ça nous situe donc vers la fin du paléolithique. Ça ressemble quand même à un faciès que l'on pourrait appeler le magdalénien.
Il a pu être dans la littérature jusqu'à présent, du fait d'un certain nombre de dates, avancer cette proposition. Sans anticiper sur ce qui va pouvoir sortir et des résultats qui vont être issus des dernières et des plus récentes datations uranium-tarium en cours, je pense qu'il va falloir faire des datations par le radiocarbone à partir de ces restes de charbon associés à la peinture et aux pigments. Bien que petits, on doit pouvoir les dater par AMS. Enfin, je pense qu'on va avoir intérêt à redater et à réexaminer l'ensemble des collections archéologique exhumée. Je veux dire par là, et sans faire de la prédiction, scientifiquement, je m'attendrai à un vieillissement. Je ne serais pas étonné que cet art-là se retrouve dans la première moitié du paléolithique récent européen.
Comment expliquer les liens si proches de ces peintures avec celles du Périgord ou d'Ariège, si ce n'est au travers d'une même communauté de pensée?
Alors là, je partage effectivement, moi, pour le coup, cette communauté de pensée. C'est ce que nous montre effectivement la large distribution et de l'art mobilier et de l'art pariétal, avec des thématiques communes, un bestiaire commun, mais malgré tout, à certains endroits, des variantes. Ici, bioculturelles, des espèces qui reflètent des environnements, le même langage, la même syntaxe au niveau de la manipulation des signes ou autres, et au niveau des courants culturels attestés dans les occupations, la même manière de traiter les débitages qu'on a par exemple décrit chez Niski, a décrit du Gravettien dans les assemblages de Kapova. Donc on a bien là un fond commun de connaissances traditionnelles et apparemment aussi, il se pourrait, de connaissances mythologiques, d'histoires racontées, de conceptions du monde, que nous documente bien l'art pariétal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la singularité de Kapova est un complément utile à l'étude et la compréhension de l'art de la façade atlantique. Et nos collègues de la Fédération de Russie qui s'interroge aujourd'hui sur cette possible instance de classement montre effectivement qu'ils ont une singularité qui nous est indispensable.
Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierre Monteil et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Je remercie pour sa traduction Vilora Yakupov, directeur de l'Alliance française d'UFA en Bachkirie. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture change de décor pour la Mésoamérique et les cités mayas.